L'essentiel de l'actualité, Philippe Fong.
Bonjour à tous. L'offensive russe se poursuit en Ukraine. Ce vendredi, les chars russes se rapprochent de Kiev. Un réacteur nucléaire de Kharkiv a été ciblé par des frappes. La peur d'un incident nucléaire augmente également à Rivne, dans l'ouest du pays, une ville coincée entre deux centrales. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à 16h en urgence sur la fabrication supposée d'armes biologiques en Ukraine. À la demande de Moscou, la Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques donc en Ukraine, ce qui a été démenti par les deux capitales. Les discussions continuent à Versailles entre les chefs d'État européens pour trouver une position commune sur la guerre en Ukraine. Hier après-midi, Emmanuel Macron a dénoncé le bombardement d'un hôpital pédiatrique à Mariupol, un acte de guerre indigne. La France anticipe l'arrivée possible sur son sol dans les prochaines semaines de 50 000, voire même peut-être 100 000 personnes ayant fui le conflit en Ukraine et se prépare à redimensionner l'accueil prévu. C'est ce qu'a annoncé le coordinateur de la cellule interministérielle de crise. Selon le dernier sondage BVA, près des deux tiers des Français s'inquiètent que la guerre en Ukraine ne s'étende à la France. Le sondage confirme également la dynamique d'Emmanuel Macron qui rassemble 30% des intentions de vote à la présidentielle. Fin du port du masque, sauf dans les transports, suspension du pass vaccinal à compter de lundi. Un nouveau protocole sanitaire va entrer en vigueur dans les écoles, collèges et lycées. Il ne sera notamment plus obligatoire de porter le masque, mais les élèves et les enseignants qui le souhaitent pourront bien entendu le garder. Dans ces conditions, tous les enfants non masqués d'une classe seront cas contact si un de leurs camarades est positif. Même règle à l'école élémentaire, au collège et au lycée. Des manifestations en soutien à Yvan Colonna se sont poursuivies hier en Corse. Des incidents ont éclaté à Bastia. Des projectiles ont été jetés sur les forces de l'ordre. À Corté, une quinzaine de personnes s'en sont pris à la sous-préfecture. Et puis l'UEFA ouvre une enquête préliminaire contre le Paris Saint-Germain et ses dirigeants. Ils auraient eu un comportement agressif contre les arbitres après l'élimination parisienne face au Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions mercredi soir. Bonne journée.
Le MAG de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue, il est 8h02, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de l'émission Le Mag de l'Immo. Vous l'avez entendu, les actualités sont terribles du côté de l'Est, des drames, on parle de nucléaire, mais nous essayons de garder ce rituel qui fait tant plaisir apparemment à nos publics et à nos invités, avec aujourd'hui un invité de choix. Bonjour Olivier de Chabot-Tramécourt.
Bonjour Fabienne.
Je présente Olivier de Chabot-Tramécourt à nos invités. Il est directeur général du groupe Mercure, un groupe qui propose à la vente 1200 biens, dont plus de 300 châteaux. Et oui, on parle tout souvent de construire un château en Espagne, hein, c'est ça, des rêves inaboutis. Eh bien, lui, il le fait, notre invité. Il sait ce que c'est des châteaux, puisqu'il en vend un quasiment toutes les semaines. On va en parler dans un instant. Et donc, Olivier de Chabot, vous avez le droit de connaître le principe de cette émission, hein, parce que je vous explique le ressort du MAG de l'Immo. On va essayer de vous faire découvrir, tout en éclairant le contour du groupe que vous dirigez, le groupe Mercure, qui a fait de l'immobilier de luxe et du patrimoine immobilier. C'est fer de lance. Alors, quel est votre parcours? Quels sont vos projets? On va essayer de déflorer tout ça pour nos auditeurs. On va vous découvrir à travers nos questions, mais également à travers des témoignages. Vous êtes prêts pour ce petit jeu de questions-réponses?
Prêt, Fabienne.
Très bien, et bien, tout va bien. Il fait 8 degrés aujourd'hui à Paris. Ça s'améliore, une belle fin de semaine, en dépit d'un contexte politique très chargé. Bienvenue à tous dans cette émission. Alors, on vous a donné les clés, hein, vous avez choisi les titres, les sujets, et puis les sujets, ce sont ceux de l'actualité immobilière. Vous les connaissez parfaitement, on y revient dans un instant.
Le MAG de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Alors Olivier de Chabot, vous êtes basé à Toulouse, là où il y a le siège du groupe Mercure. On vous fait venir jusqu'à Paris. C'est difficile pour vous de quitter votre région ou vous faites des kilomètres? Comment ça se passe dans l'année?
Alors on fait quelques kilomètres, mais il faut rappeler à tout le monde qu'il y a une vie en dehors du périphérique. Et que la ville rose a bien son nom, et qu'il fait extrêmement bon de vivre en province et de travailler depuis la province. Ça permet aux collaborateurs d'avoir une qualité de vie qui, somme toute, peut être assez agréable par rapport aux conditions parisiennes, par exemple, et qu'aujourd'hui, malgré la crise du Covid où il y avait moins d'avions, on se déplace extrêmement bien entre l'avion et le train et les autoroutes en France.
Alors, c'est vrai que ce discours semble inspiré par ces tendances qui se sont accélérées avec le Covid, avec une redécouverte des Français des villes moyennes, nous dit-on. Ça vous a fait plaisir qu'on découvre les charmes de ces villes. Alors, quand on parle de Toulouse, on parle quand même d'une grande métropole. Hein, mais vous souriez en disant qu'à Paris, il y a une vie au-delà du périphérique, il faut le rappeler aux Parisiens. Quand même, cette tendance, pour vous, c'est bénéfique. Et puis également, en termes de marché, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, je pense que c'est extrêmement bénéfique, d'abord pour notre pays, parce que c'est l'aménagement du territoire et que la concentration, elle sera inévitable parce que les centres de décision sont sur les grandes métropoles et Paris. Mais néanmoins, l'aménagement du territoire, c'est aussi offrir aux gens qui veulent habiter en dehors de ces grandes zones des écoles, des hôpitaux, des moyens publics et que on est un peu dans le chien qui se mord la queue. C'est moins il y a de gens qui y vont, moins il y aura de moyens, et moins il y a de moyens, moins il y a de gens qui veulent y aller. Donc cet effet Covid, je trouve, est un accélérateur de prise de conscience que et ce télétravail qui aujourd'hui, il y a encore 3 ans, c'était 9% des gens qui faisaient du télétravail. L'association des DRH dit que ce sera 30% des gens en 2023 ou 2024 qui feront plus de 2 jours de télétravail. Donc ça a du sens de s'offrir le vrai luxe qui est l'espace et le calme.
Alors vous êtes quelqu'un de totalement surprenant, je vais vous dire, Olivier de Chabot. Et vous savez, des dirigeants, il y en a de nombreux qui défilent sur le plateau de Radio Immo. Pourquoi ? Parce que quand on parle du groupe Mercure, je l'ai dit, 1300 demeures de caractère, 300 châteaux. Bah on imagine un patron, un châtelain. On imagine notre cher confrère Stéphane Bern, très très collé monté. Je vous vois, pour ceux qui nous écoutent simplement sans regarder la vidéo, ce vendredi, vous n'avez pas de cravate. Et puis, je vous ai vu lors d'une conférence de presse. C'est un exercice très classique. Hein. Eh bien, vous accueillez chaque journaliste de manière très personnalisée, même ceux qui étaient en retard, vous leur faisiez un bon accueil. Donc il y a quelque chose de très convivial chez vous qui ne correspond pas nécessairement à l'idée qu'on se fait de quelqu'un qui dirige un groupe dans le domaine des châteaux et des belles demeures.
Alors oui, je suis un peu surpris et je vous remercie du compliment, mais je pense que l'entreprise, c'est d'abord une réunion humaine. Et quand je promeus le groupe à travers une conférence de presse ou que je travaille avec mes équipes, on ne peut pas imaginer de construire un projet, de partager un projet, de le faire vivre, si avec ses concitoyens, les gens qu'on rencontre, les gens avec lesquels on vit, on n'est pas à leur écoute et à leur attention.
Alors l'écoute, comment ça se passe ? C'est-à-dire que on nous dit que l'immobilier haut de gamme, vous savez, c'est la clientèle étrangère. Alors, on imagine des clients extrêmement exigeants. Ils ont certainement des ressources considérables. Est-ce que, du coup, ce métier est quand même extrêmement difficile, parce qu'on parle de très belles pièces. Hein. J'invite les personnes à aller voir sur votre site les magnifiques villas qui nous font rêver. Mais est-ce que dans la relation commerciale, la relation client dans l'immobilier, il faut s'accrocher pour être capable de faire ces transactions à millions d'euros ?
Je pense que la transaction immobilière, si on revient sur la notion d'humain tout à l'heure, que vous soyez quelqu'un de très simple qui achète une maison à 120 000 euros, ce sera son achat de vie. Que j'achète après, que je rajoute 2 zéros et que ce soit 12 millions, c'est juste une question d'échelle, mais ce sera le même impact. Donc je pense qu'il ne faut pas le voir là-dessus. Je veux positionner, parce que l'immobilier de luxe, vous l'avez d'office associé à l'étranger. Il faut quand même se dire que depuis 2 ans, les étrangers, on les a quand même plus vus avec le Covid.
Bien sûr.
Et qu'on a une clientèle française qui vient de la finance et de la tech et qui l'a largement remplacée. Pour le groupe Mercure, avant 2019, c'était 25% de clients étrangers. Et aujourd'hui, ce n'est que 11 pour l'année 2021. Et ce sont nos voisins européens qui, eux, pouvaient venir de Belgique, de Luxembourg, de Hollande ou d'Allemagne ou de Suisse sans avoir à prendre un avion ou un train et sans avoir un pass sanitaire, un pass vaccinal et toutes les contraintes de transport.
Effectivement, je voulais aborder la question parce que ce sont les postulats qu'on se fait, mais ce sont parfois des idées reçues. J'ai même vu effectivement que les clients étrangers hors Europe, ils représentent 75% des accueilleurs étrangers. Donc quand on parle de clientèle étrangère,
c'est l'inverse.
Faut savoir de quoi on parle. Précisez-nous, qu'est-ce que ça représente
voilà,
chez vous ?
Les clients étrangers sur le marché français, c'est et particulièrement pour Mercure, c'est 75% de nos clients étrangers sont nos voisins européens. Et les 25 restants sont des Américains, des Asiatiques, des Australiens ou Moyen-Orientaux.
Alors, je reviens quand même sur votre personnalité. Comment avez-vous atterri, si j'ose dire, dans ce secteur somptueux, puisque vous étiez dans un autre secteur somptueux, si j'ose dire, mais je vois votre parcours dans l'assurance, conseil en risk management pour PME, et puis ça fait plus de 5 ans que vous dirigez ce groupe Mercure. C'est l'affaire de rencontre, vous aviez le souhait de naviguer dans cet immobilier haut de gamme ?
Non, c'est la rencontre fortuite, le hasard de rencontrer ma prédécesseuse qui était Madame de La Sauzée, qui, pour des raisons personnelles, souhaitait quitter la direction du groupe. Et ça s'est fait comme ça. Moi, j'étais sur une évolution de profil. J'ai arrivé dans le sud-ouest parce que je venais du nord et que le siège est à Toulouse et que ça permettait de rebondir. Après une activité dans le conseil pur, je voulais revenir sur quelque chose de très opérationnel et dans un univers que je maîtrise assez bien. Donc, bonne rencontre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup de qualités. J'ai parlé à des gens qui travaillent avec vous et notamment votre ami Jean-Baptiste Van Esland. Et la qualité que je mets en exergue, c'est la fidélité. Ça fait quelque temps quand même que vous vous connaissez. Alors, Jean-Baptiste Van Esland, il est directeur international du groupe Savencia dans l'agroalimentaire. Mais là, ce n'est pas d'agroalimentaire dont il va parler, c'est de vous. On l'écoute. Jean-Baptiste Van Esland, bonjour. Vous êtes le directeur international de Savencia et par ailleurs ami d'Olivier de Chabot. Ça fait longtemps que vous êtes amis ensemble ?
Ouais, écoutez, je ne compte plus les années. Ça fait plus de 30 ans, donc on se connaît bien.
Et qu'est-ce qui fait que vous êtes rapprochés ? On essaye de comprendre comment est Olivier de Chabot. Qu'est-ce que vous appréciez chez lui ?
Bah écoutez, quand on a un ami, ça se développe avec les années. Et c'est là que on partage pas mal de choses. On a des valeurs d'abord qu'on partage. Je pense que ça, c'est important. On est assez proches sur pas mal de choses qui sont importantes dans la vie. L'esprit de famille.
Comme quoi, par exemple
On a tous les deux 4 enfants, ils ont à peu près les mêmes âges, et puis on essaie de partager des vacances qui sont des vacances familiales, des moments importants de convivialité, donc pour nous c'est ça qui compte, et voilà, on se retrouve entre amis comme ça, et c'est intergénérationnel.
Et c'est vrai que parfois on fait des voyages ensemble entre amis, on se retrouve dans une maison, sans être indiscret. Hein. Est-ce qu'il y a des habitudes, des rituels ou peut-être dans le sport que vous partagez ?
Écoutez, d'abord on aime bien se raconter quelques histoires de temps en temps, donc c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui a entre sa vie professionnelle et sa vie privée, de temps en temps, évidemment, comme nous tous, on est très occupés. Mais ce qu'on aime bien, c'est lâcher un petit peu du lest quand on se retrouve. Donc, c'est être tranquille, c'est faire des balades. Et puis, c'est un gourmet. Donc, on aime bien partager aussi des bons dîners ensemble avec nos épouses. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Vous avez une région de prédilection ? Vous êtes connu dans une région en particulier ?
On est tous les deux du nord-ouest de la France. Lui vient d'une région où il y a un peu plus de brouillard qu'est le Pas-de-Calais. Et moi, je viens de Seine-Maritime, où il pleut tout autant. Mais ce sont deux régions qui sont où les gens ont le cœur chaud et où on parle peut-être pas directement, on est assez discret, mais quand ensuite les liens se tissent, eh bien, ils sont d'autant plus forts.
Là, il vous écoute, il est en plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Ben, je suis très fier de lui, j'apprécie beaucoup sa fidélité, parce que c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un de fiable, et puis de solide. C'est-à-dire que quand, vous savez, vous avez quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, je pense que c'est la meilleure preuve d'amitié, et donc tout ça, j'ai envie de lui dire. Et puis qu'il ne perde pas son sens de l'humour, parce que ça, c'est vraiment ce qui nous rapproche aussi.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Van Esland pour ce témoignage, éclairage extrêmement intéressant sur Olivier de Chabot. Au revoir. Alors, ça date de quand ? Où est-ce que vous êtes rencontré, Olivier de Chabot, avec votre ami ?
On s'est rencontré à sortie de nos prépas et dans une école de commerce qui s'appelait à l'époque l'INSEC.
Eh bien, effectivement, la fidélité, vous avez fait les 400 coups apparemment, et on comprend que vous êtes un bon vivant, et quel plaisir. Et en même temps, dans ce monde où nous vivons, là en ce moment, mois de mars, avec chaque jour des inquiétudes légitimes sur les drames humains qui se passent en Ukraine, les risques nucléaires... Qu'est-ce que vous dites ? Juste au démarrage de l'émission, vous me citiez ces jeunes qui disent oh, « Moi, je n'ai pas envie de faire des enfants dans ce monde-là. » Vous n'êtes pas atteint par ce pessimisme ? Est-ce que c'est du réalisme ? Comment vous voyez ça ?
Je pense qu'on est une société qui... On vient de vivre 70 ans, ça, quasiment sans guerre, et qu'on a perdu la notion que la paix... la prospérité est quelque chose qui doit se défendre et qui doit se conquérir. Et à force de nous avoir tout donné, moi le premier, parce que je n'ai jamais connu ça, le danger, c'est qu'on le prenne pour un bien complètement acquis et qu'il ne faille pas le défendre. Et que ça doit se construire et que ça doit évoluer. On le voit bien sur l'évolution de la planète avec l'écologie. On voit bien ces conflits exacerbés dont on n'a pas les ressorts aujourd'hui parce qu'on les a perdus. C'est pas pour ça qu'il faut les entretenir, par contre. Mais il est important que les gens se disent demain sera merveilleux, il sera merveilleux parce qu'on aura quelque chose à bâtir, à construire et à développer.
On parle de la guerre de la Russie en Ukraine. On parlait tout à l'heure de la pandémie. On n'en est pas totalement sorti. Et dans le contexte immobilier, on lit quand on regarde votre magazine Pope Mercure Forbes. Que les Français ont exprimé, et d'autres, les Européens aussi, un désir d'investir dans des cocons. Donc c'est ce que vous dites, d'un côté, il faut quand même profiter de la vie, croire que demain va être mieux qu'aujourd'hui, qu'on peut le rendre, avoir une belle journée en investissant, mais en même temps, se replier dans des cocons, ça a une tendance importante sur votre activité.
Oui, mais c'est plus profond. Nous, on l'a analysé en partant des premiers Grenelles de l'environnement, le 1 et le 2, où les gens ont cherché à donner du sens à ce qu'ils avaient. Que la vie, boulot, dodo, métro, ça pouvait avoir ses limites. D'ailleurs, on voit sur les jeunes générations, et moi je le vois avec mes enfants qui travaillent, qu'ils recherchent du sens dans ce qu'ils font. Et puis, on a eu l'effet Covid, qui a montré que même un très bel appartement dans un hyper-centre-ville, quand il n'y a plus les services autour, ça devient une cage dorée. Elle a beau être la plus belle, néanmoins, ces appartements n'ont de sens que si je peux avoir une vie à l'extérieur. Si j'ai plus cette vie à l'extérieur, elle est compliquée. Ce qui fait que les gens sont partis ou ont cherché à aller trouver de l'espace, de la verdure. On est toujours sur ce sentiment, quand il y a une crise, que la pierre est une valeur refuge, qu'on cherche tous un toit. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un château pour avoir un toit ? Mais au même titre, est-ce qu'on a besoin d'une Ferrari pour aller acheter sa baguette de pain ?
Donc certains, ça, c'est certain.
Mais voilà. Mais je pense qu'avant d'aller sur des grandes propriétés, les gens sont allés vers quelque chose de tangible, de bien construit et qui puisse durer. C'est cette notion de durée.
Alors, on parlait il y a un instant de l'Ukraine. Est-ce que l'immobilier haut de gamme accuse le coup. Barnes a fait une petite étude en estimant que les acquéreurs russes, d'un côté, allaient fuir l'immobilier dans leur propre patrie. Et ils pensent également, Barnes, que dès que le marché va reprendre, quand le conflit sera fini, ce qu'on espère très vite, il va y avoir une grosse tendance. Vous, quelle est votre vision ?
La vision, c'est que la clientèle russe nous avait quittés avec le premier embargo suite à l'annexion de la Crimée. Donc on est en 2015. Pour le groupe Mercure, on estime que c'est entre moins 70 et moins 60% des clients russes qui nous ont quittés. Les seuls qu'on a gardés, c'est ceux qui étaient en train de vendre. Aujourd'hui, les mesures de rétorsion en Europe, il faut juste le rappeler, ça va concerner 53 entreprises selon le Conseil de l'Europe et 860 particuliers. Donc on est quand même sur une ultra niche et qui nous impacte moins que ne pourraient l'être nos confrères qui sont sur la Riviera ou dans Paris stricto sensu, hein, étant donné que on les avait pas nous autour de nos grandes propriétés. Nos grandes propriétés viennent soit du pays nordique, ou soit des États-Unis et pays anglo-saxons, pour les clientèles étrangères en tout cas.
Alors on a vu que dernièrement, dans le cadre des sanctions que les Occidentaux veulent appliquer à quelques oligarques russes, on s'est demandé, tiens, qu'est-ce que ça va cibler, qu'est-ce que ça va donner. J'identifiais le château de la Croé, un château français d'exception construit en 1927 dans le style victorien au Cap d'Antibes, propriété du milliardaire russe Roman Abramovitch. Donc vous vous dites, chez Mercure aujourd'hui, c'est pas une question, vous n'êtes pas touché par des Russes qui vous disent « Oh là là, mes biens vont être saisis, qu'est-ce que je dois faire ?»
Vous parliez du conflit ukrainien. Donc juste pour la partie russe, nous, ça ne va pas... D'abord, aujourd'hui, tout est figé, donc il ne pourra pas le vendre, on ne peut pas en acheter, personne ne viendra. Donc aujourd'hui, temporairement. Ce qui est plus inquiétant, c'est que si on a cette guerre qui dure et qui, si elle s'étend, si elle dure, l'immobilier, comme tout marché, n'aime pas l'incertitude. Ouais. Et c'est ça, la vraie problématique. Puis la seconde, c'est que si ça s'embrase... ce que je ne pense pas, ou en tout cas que j'espère pas, là ce sera compliqué, mais je pense que ce sera compliqué pour nous tous.
On fait une petite respiration musicale et je vous le disais, Olivier de Chabot est quelqu'un de surprenant. On a un discours très calme, très réfléchi, très posé, très intéressant. Et puis voilà, vous choisissez Queen, We Will Rock You. Alors c'est peut-être un rocker qu'on a sur le plateau. On va le voir dans un instant parce qu'on poursuit la discussion après une petite musique.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Alors, vous êtes un rocker, Olivier de Chabot, ou juste éclectique dans vos goûts musicaux?
Bon, je pense un peu des deux, mais après vous verrez la notion que vous mettez sur rocker et éclectique. Non, j'aime bien ce morceau, d'abord parce qu'il est simple et qu'il part sur un rythme qui est extrêmement basique. Alors, on a de la chance, c'est que si Queen avait pris le thème du tac-tac-toum de la SNCF, ça aurait été plus compliqué, mais là, c'est tac-tac-toum. Et que c'est, je trouve, un morceau qui est enthousiasmant, emballant, et c'est surtout un des premiers morceaux pour les groupes de rock qui permettait la communion entre un groupe et son public.
C'est vrai.
Et on est en 77, donc c'est pas tout jeune. Et puis après, il y a un petit clin d'œil, parce que si on regarde les paroles, il dit d'abord que le jeune homme doit se bouger, après que l'homme doit se bouger et que le old man doit se bouger aussi. Donc c'est un peu la vie.
Et vous, vous bougez beaucoup entre toutes vos belles demeures, beaux châteaux que vous vendez. D'ailleurs, Freddie Mercury, il avait largement, le chanteur de Queen, il avait largement les moyens de se payer de beaux châteaux. Parlez-nous, combien vaut un château en moyenne? Vous en avez vendu combien l'année passée?
Nous en avons vendu 114 l'année dernière, qui était une bonne année, avec un changement de clientèle, mais une belle année néanmoins. C'est ce qu'on vend en moyenne. On vend entre 130 habituellement, entre 110 et 150 châteaux selon les années.
Alors, il y a des châteaux de montants très très différents. Vous disiez combien ça coûte un château aujourd'hui en France?
Ça dépend si c'est un château en Espagne ou pas. En fait, le principe de ce type de propriété, de château, de gentilhommière, de demeure, de manoir, répond quand même une règle immuable dans l'immobilier, c'est la situation, la situation et la situation. Donc, si vous avez un château en Île-de-France, vous allez passer les 10 millions, les 15 millions, et même plus, largement. Et dans certaines régions, malheureusement, moins riches en infrastructures, plus excentrées par rapport au centralisme français, vous allez le trouver à partir de 350, 400, 450. La signature Mercure n'est pas uniquement le prix. Notre président Pierre Chassaigne s'y est toujours attaché, on le maintient. La signature Mercure, c'est le patrimoine, l'authentique, le beau, le rêve. Mais ce n'est pas parce que ça fera 10 millions que c'est beau et que ça fait rêver. Et quelquefois, vous pouvez tomber sur quelque chose de merveilleux au coin d'un ruisseau, dans une très belle région comme la Bretagne, comme la Creuse. Et tomber sous le charme et amoureux de cette vieille maison.
Alors, ce serait faux de cantonner votre activité au château, parce que récemment, vous déployez tout un discours sur les domaines viticoles. Vous pouvez nous parler de cette diversification, ce renforcement?
Alors, ce n'est pas réellement une diversification, c'est la continuité de ce qu'on faisait. Ces grandes propriétés, qui est le cœur historique de Mercure, ont été construites et vivaient autour d'une économie agricole du 18e ou début 19e ou 17e. Au fil des successions, ces grandes propriétés ont perdu le foncier ou le forestier autour d'eux. Pour les faire vivre aujourd'hui, donc en fait, il nous reste quelquefois les châteaux, donc on va pouvoir prendre l'image de la bague et de son écrin, mais il n'y a plus d'écrin. On a la bague, mais on n'a plus l'écrin. Et qu'aujourd'hui, le viticole est l'endroit où le rapport surface rentabilité par rapport à l'investissement permet de dégager les marges d'entretenir. Et puis on revient toujours dans cette histoire de sens, c'est que le vigneron va produire du raisin, va le transformer en vin et va le commercialiser. Donc il va élever un vin d'ailleurs, on parle, c'est comme une famille. Hein. Donc il y a vraiment ce projet et cette continuité. Et puis autour du tourisme, de l'onotourisme, de la partie viticole, on arrive à avoir la plénitude d'une propriété du 21e siècle.
Et on le disait, vous êtes un bon vivant. Alors vous aimez mieux quoi, les Bourgognes, les châteaux, les vins d'Alsace?
Ah non, alors j'ai une femme qui est tarnaise, donc je vais lui dire quand même que c'est les châteaux de Gaillac, autour de Gaillac, il y a les meilleurs vins. Je suis assez assez éclectique aussi là-dessus. Et Jean-Baptiste, que vous avez interviewé, qui a été longtemps en poste en Allemagne, et en Autriche a de très bons vins de la Ringao et des vins de Hongrie. Donc non, je trouve qu'un bon produit, lorsqu'il est bien élevé, c'est le cas de le dire, qu'il soit un vin de Loire, que ce soit un vin de Meuse, parce qu'il y a aussi des vins là-haut, sur la Meuse, ou du Vertriès sur le Rhin, ou en Bourgogne, un beau produit bien travaillé en fonction des plats, de l'environnement, de la convivialité avec les gens avec lesquels vous le partagez, ça lui donne déjà beaucoup, beaucoup d'arômes. Mais je reconnais très humblement que je n'ai pas un palais d'experts et qu'entre un très très grand vin et un grand vin, je ne sais pas si je saurais en toute humilité sentir une telle différence.
Alors, en tout cas, vous y connaissez en château. Et quand on pense château en France, on pense quand même très rapidement à la Touraine, des magnifiques châteaux de la Loire. Il y en a un qui a de la chance. Il est en charge du groupe Mercure pour Pays de la Loire, mais également pour Nantes. Il s'appelle Jean-Charles Deselus. Alors, il est tout jeune, il n'a pas fait encore beaucoup d'interviews, on lui pardonne. Mais on l'écoute parce qu'il vous connaît très bien et il nous parle de vous. Jean-Charles Deselus, bonjour. Vous travaillez avec Olivier de Chabot, mais quel type de manager est-il pour vous ?
Olivier, c'est un manager qui a de multiples qualités. C'est un chef de file qui a une vision ambitieuse pour Mercure, son entreprise. Déjà, c'est quelqu'un qui connaît très bien... qui se connaît lui-même et qui a une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il a conscience de ses propres limites et de ses valeurs ajoutées. Il sait bien s'entourer. Il cherche les meilleurs talents pour atteindre ses objectifs. Il a une vraie vision pour son entreprise.
Alors, d'une région à l'autre, le patrimoine diffère. Vous êtes dans l'une des plus belles régions de France, Château de la Loire. Et alors, on imagine qu'il y a de belles opérations. Voilà, il y a des managers, ils délèguent énormément. Puis il y a des moments quand c'est des très belles opérations. J'imagine que vous êtes à plusieurs avec vos interlocuteurs. C'est comme ça, c'est un manager qui se mobilise, qui sait répondre présent lorsqu'il y a des réalisations en cours importantes.
Oui, bien sûr que c'est quelqu'un qui est passionné par les propriétés que nous avons la chance de pouvoir commercialiser et surtout l'objectif étant de trouver le meilleur mode de transmission. Et Olivier, par son histoire personnelle, est touché par ce besoin de transmettre le patrimoine. Et donc, il n'hésite pas à venir sur le terrain parce qu'il en a envie il sait très bien il a le savoir-faire et l'objectif est d'avoir une réussite commune à la fois avec ses équipes et ses clients. Donc oui, totalement, il peut venir sur le terrain.
Merci beaucoup Jean-Charles Deselus de nous avoir parlé de lui. Vous êtes le responsable à la fois pour Nantes et la Loire pour le groupe Mercure. Merci pour votre temps. Vous me dites Olivier de Chabot, il a une voix toute juvénile et c'est un grand gaillard.
Ah oui, ça pourrait être un pilier de rugby sans aucun souci.
Alors comme ça, vous avez des responsables, comment on anime un réseau quand c'est du haut de gamme, c'est sur tout le territoire, vous êtes même à l'étranger, pas facile comme défi.
Alors il suffit de s'entourer, de choisir des gens qui connaissent bien leur terroir et leur territoire, ce qui est le cas pour Jean-Charles. Quand il parle de la chance de commercialiser tel ou tel bien, il fait partie de ces gens qui forcent la chance, parce que la chance, il faut aussi la provoquer. Donc l'idée, c'est de s'entourer en région de gens issus, la plupart du temps de cette région, qui la maîtrisent bien, qui maîtrisent bien les codes, et qui eux-mêmes vont s'entourer de collaborateurs, la plupart du temps originaires de ces régions, parce que... Quand nous devons accompagner un client qui nous dit, voilà, moi je cherche ce qu'on a eu l'année dernière, un client américain qui nous disait, voilà, je voudrais un château, voilà, je veux tel type de propriété. Il nous a demandé de ce qu'il voulait, ben, il nous a dit du Havre à Nîmes. Donc là, on lui a dit, c'est un peu large quand même. Ah oui, je voudrais de la vigne, ok, je voudrais des oliviers, oui, mais je voudrais bien peut-être voir la mer. À la fin, il faut qu'on arrive à le mieux le cerner et que lui aussi sache ce qu'il veut. Et après, il va bien falloir qu'en région, on ait les bonnes personnes, parce que nos clients nous font confiance. Pour des clients qui ne connaissent pas ces régions, vous risquez d'être un peu l'américain pour le vendeur local. Donc il y a besoin d'un accompagnement pour que, parce que c'est l'autre signature de Mercure, c'est que nous essayons, tant faire se peut, que ce soit le prix juste. Le juste prix, personne ne peut y arriver, mais le prix juste. Prix juste entre ce que vaut le bien pour le vendeur et ce que le bien vaut pour l'acquéreur.
Et ben, quel est le prix juste pour l'Italie, hein? Je vois dans votre magazine que vous êtes présent également là-bas avec des représentants qui satisfont une clientèle internationale dans la vente, l'achat de propriétés sur le lac Majeur et le lac d'Orta. Je vous parle d'Italie parce que la musique que vous avez choisie, ça s'appelle Va Pensiero. On croyait tous les deux que c'était de l'italien. Vous allez nous en parler dans un instant. Va Pensiero de Nabucco Verdi. On l'écoute.
Thank you.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici.
Pourquoi avez-vous choisi ce titre, Olivier de Chabot ?
D'abord parce que
il est beau, hein,
ce voix de cœur est merveilleux, que de longtemps je l'ai pris pour l'hymne italien et que ce n'est pas l'hymne italien, et que je suis très admiratif de ces opéras montre la maîtrise qu'il peut y avoir avec quasiment quelquefois une centaine de personnes entre les musiciens, le chef d'orchestre, la cantatrice, les chanteurs et le chœur de ballet, et que tout ça fonctionne en harmonie. Et je me dis que c'est un peu notre rôle de chef d'entreprise d'arriver à ce que les gens qui jouent chacun des partitions peut-être différentes, en tout cas des morceaux, c'est la même partition et des morceaux différents, qu'ont des actions et des missions différentes, fassent que tout ça se fasse en harmonie et permettent de créer quelque chose, notre service, nous c'est notre prestation de service, ou un très bel opéra comme ça.
Alors j'ai appris que Nabucco de Verdi, c'est une œuvre autant musicale que politique, puisqu'elle évoque l'épisode de l'esclavage des Juifs à Babylone, et le fameux chant, c'est celui du cœur des esclaves opprimés. Et oui, on apprend des choses dans le magazine de l'IMO. On parlait il y a un instant de musique d'art, et c'est ça qui est extraordinaire dans votre métier avec les belles demeures, les beaux châteaux, c'est qu'on parle de patrimoine, et ça touche à tout ça, pas seulement l'immobilier, mais là aussi, vous êtes mécène, le groupe Mercure de l'association La Demeure Historique. Vous voulez bien nous parler de ces liens entre immobilier et patrimoine ?
Alors, vous avez deux moyens de vision de voir ces châteaux, ces propriétés, ou même un très bel immeuble parisien, parce qu'on est une partie de notre activité se fait aussi en ville, qui correspondent à une architecture et qui sont en elles-mêmes des œuvres, pour moi, une partie d'œuvres d'art. Et que quand elles sont construites pour sublimer. Si vous regardez Versailles, la Galerie des Glaces, elle a été créée, et la structure et la galerie ont été créées ensemble. Vous avez des salons qui sont faits avec des trumeaux. Donc en fait, vous avez l'écrin et après du mobilier et des peintures et des décors qui sont la continuité logique de ces constructions.
Donc d'un côté des propriétaires et de l'autre des amoureux du patrimoine. C'est-à-dire les châteaux vaut bien, ça fait rêver même si on ne peut pas se les payer.
Exactement. et ce qui fait que d'ailleurs la France est remplie d'associations, et ce qui force mon admiration, c'est de ces gens qui sont passionnés dans la défense du patrimoine sans en être propriétaires. Donc en fait pour lequel c'est une partie est importante d'un bien commun.
Alors, je vais arrêter de faire croire que votre métier, c'est que du rêve et de la chimère, parce que vous avez beaucoup d'expertise et vous entourez beaucoup d'expertise. On a parlé avec Philippe Comté, ancien président de la Chambre des experts de France. Il nous parle de vous parce que vous avez travaillé ensemble pour partager votre expertise. Justement, Philippe Comté au micro, on l'écoute. Philippe Comté, bonjour. Vous êtes l'ancien président de la Chambre des experts de France. C'est à la faveur de vos expertises que vous êtes entré en contact avec Olivier de Chabot ?
Eh bien, écoutez, madame, c'est à la faveur, oui, d'expertise que je suis entré en contact avec lui pour organiser principalement une intervention sur l'évaluation des châteaux et des demeures exceptionnelles dont il est spécialiste dans la transaction au sein du groupe Mercure. Et donc, à partir de cette intervention qu'il nous a faite durant 48 heures à Biarritz, sur un site assez magique, nous avons pour continuer à rester en contact afin de collaborer régulièrement sur des dossiers et avancer tant sur le plan de la transaction que sur l'expertise de biens immobiliers.
Comment percevez-vous Olivier de Chabot ?
Eh bien, écoutez, Olivier de Chabot est quelqu'un qui ne sait pas dire non, d'abord, et qui, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il est toujours présent, prêt à donner le maximum de ses connaissances et de ses connaissances professionnelles et carnet d'adresse afin de pouvoir rendre service, ce qui est tout à fait dans l'état d'esprit d'un bon professionnel de l'immobilier.
Donc vous avez plaisir à vous retrouver, même si c'est pour des affaires immobilières denses et lourdes.
Tout à fait, oui. On a régulièrement beaucoup d'échanges. C'est le principe hein, des personnes, des sachants dans l'immobilier, et d'échanger leurs connaissances et de pouvoir apporter aux uns et aux autres, à chaque fois qu'on en a besoin, un certain nombre de renseignements et de pratiques, d'échanges de pratiques principalement dans la partie dont on est spécialisé.
Oui, vous êtes un expert, mais lui, il connaît particulièrement ce marché particulier des châteaux et des belles demeures.
Oui, parce qu'en fait, bon, moi je suis expert immobilier reconnu par la profession depuis bien longtemps, mais vous savez que chaque professionnel de l'immobilier dans la transaction est également un expert dans son domaine et sur son secteur. Donc on peut tout à fait dire que Olivier est un très bon professionnel et un expert dans son domaine à qui on peut demander beaucoup de choses parce qu'il a vraiment la connaissance du marché de ces belles demeures.
Merci Philippe Comté pour cet éclairage sur notre invité. Au revoir. Intéressant, il nous dit, Philippe Comté, que vous ne savez pas dire non. Moi, je vois dans votre magnifique magazine une propriété du 18e siècle à Châtellerault sur un parc de 3,7 hectares agrémenté d'une piscine chauffée. Ben, moi, j'aimerais bien la voir. C'est vrai, vous ne savez pas dire non? Ça m'intéresse, Olivier, dites-moi.
Mais écoutez, je vais essayer de vous aider à l'acquérir et en toute connaissance de cause. Mais pas de problème.
Alors, c'est vrai, il y a beaucoup d'expertise. En fait, c'est très technique quand on doit vendre à la fois un parc, une piscine, une tennis. Enfin, voilà, c'est pas juste une surface, hein, vos réalisations. Hein.
En fait, quand vous vendez une propriété rurale, soit une maison d'ailleurs, ou un château, ou un manoir, il n'y a pas que. Et que vous avez du foncier, vous allez devoir gérer du droit immobilier, classique, du droit rural, du droit foncier. S'il y a du bois, du droit forestier. Et s'il y a qu'un peu de chance, il y a une rivière qui passe au milieu et un étang, toutes les directives et la réglementation autour de l'eau. Donc c'est une vraie expertise qui explique que le groupe Mercure a sa place et surtout dans cet univers où depuis 2 ans on a augmenté les ventes, où ça va devenir de plus en plus technique. Parce que on arrive sur des biens complexes et autant vous pouvez faire une erreur dans une acquisition d'un appartement en ville standard. Quand je dis une erreur, c'est une erreur d'achat parce que je me suis emporté, je me suis emballé, puis je m'aperçois au bout d'un an, 2 ans, 3 ans que c'était pas ce dont je voulais. Mais c'est extrêmement liquide lorsque vous achetez une propriété. Ce n'est pas aussi liquide que.
Faut pas
se tromper. Et l'entretien de ces propriétés, même s'ils sont très relatifs, c'est juste parce que c'est plus grand qu'une maison de 150 mètres carrés ou un appartement de 80 mètres carrés. Mais néanmoins, c'est un investissement en temps, en énergie et en constance aussi. Il n'y a pas que l'argent.
Apparemment, ils se sont trompés. Je ne sais pas si vous avez vu ce couple qui se déchire, Brad Pitt et Angelina Jolie, avec un beau château, Angelina Jolie ayant vendu ses parts. Un oligarque russe, manque de chance, ça va se compliquer alors. Hein.
Écoutez, je les laisse gérer, je ne connais pas le sujet. Donc, quand je
c'est
ne connais pas le
vous.
Sujet, non, je ne me prononce pas.
Alors, effectivement, vous êtes sur un marché avec plusieurs activités, demeures, manoirs, châteaux. Comment vous abordez cette année 2022? Vous attendez à quoi?
Pour l'instant, l'année 2022 continue sur la même lancée de 2021. 2021 continue sur la lancée de 2020.
Il y a eu plusieurs séquences dans l'année 2021 quand même. Hein.
2021, c'est la continuité de 2020, mais avec une maturité. Les 3 premiers trimestres plutôt axés sur les propriétés rurales et un report sur le 4e trimestre sur l'urbain. Et on a vu qu'il y a eu un effet d'aubaine, c'est-à-dire que ces propriétés qui ne trouvaient pas preneur sur les dernières années ont trouvé preneur et que les vendeurs en ont profité. Souvent, nos vendeurs sont des personnes plutôt âgées, en ont profité pour faire un changement d'allocation d'actifs et de passer d'une propriété rurale à un appartement ou une maison en ville avec les services liés à leurs besoins en fonction de l'âge. 2022 continue sur la même approche. On est là, par contre, sur un équilibre rural-urbain, parce qu'on vend aussi bien en ville aujourd'hui qu'à la campagne. On a des projets toujours très matures. Donc, on est plutôt serein, sauf, bon, trois petits points, le Covid, bon, tout le monde l'oublie aujourd'hui parce qu'on parle de l'Ukraine, mais il est toujours là. Et puis, tout ce contexte international qui n'est jamais très bon, entre la guerre, la partie inflation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce que l'inflation sera plus importante, pour un risque plus important pour nous à court terme que cette guerre. Et puis, l'anxiété, dans tout marché, que ce soit à la bourse, que ce soit dans l'immobilier ou dans les transactions et dans les affaires, l'incertitude n'est pas porteuse.
Et on le comprend dans votre activité, c'est très ancré dans les régions, il y a des spécificités d'une zone à l'autre. Est-ce que vous avez prévu de développer votre réseau? Il y a encore des parties de France où vous n'étiez pas assez représenté à votre goût?
Alors en fait, le projet du groupe est de doubler d'ici 5 ans sur deux grands axes. Le premier, c'est de renforcer les régions sur lesquelles on est déjà très présent, qui peuvent être la Bretagne, qui peuvent être la Normandie. Et après, d'aller sur des régions où nous ne sommes pas ou peu. C'est le cas pour nous du Grand Est. D'abord parce que l'histoire s'est chargée de réduire le stock de propriétés avec, entre la guerre de 70, la guerre de 14 et la guerre de 40. Donc, et que c'est un marché mais extrêmement porteur. De renforcer les équipes au niveau du service client, donc autour de la digitalisation, de l'accompagnement de nos équipes, afin de permettre aux clients d'avoir un vrai parcours, de l'accompagner en fait du début de sa recherche jusqu'à l'acquisition et voir après sur le développement de services pour l'accompagnement. Parce qu'on reprenait tout à l'heure, on parlait d'une propriété viticole. On vient de vendre une propriété viticole à un client qui va être accompagné, dans lequel on lui a trouvé le notaire, le fiscaliste, l'expert comptable, l'œnologue, et on va le pister parce que c'est des gros investissements pour nos clients. Et si on sait bien qu'un client satisfait, c'est peut-être un nouveau client, mais qu'un client satisfait, c'est extrêmement mauvais pour l'image de marque du groupe.
Et puis c'est intéressant, la conférence de presse du groupe à laquelle j'ai assisté, vous avez donné la parole à votre expert et œnologue, je ne sais pas très bien comment vous appelez ça, mais voilà, quand on s'adresse à Mercure, on peut avoir, on aura un consultant, un expert immobilier, mais on peut parler juste d'un spécialiste du vin, ce n'est pas totalement évident. Vous pouvez nous en reparler de ce nouveau partenariat?
Alors, le monsieur Vincent qui nous a rejoint, il nous manquait cette expertise, c'est-à-dire que vendre un bilan, parce qu'une exploitation agricole c'est un bilan, c'est un terroir, c'est des vignes, c'est une marque, il y a des étiquettes, c'est un bâtiment, donc voilà, donc ça on sait le faire. Néanmoins, parler du vin, parler de la vigne, parler est-ce qu'on va être en bio, en biodynamique, quelle va être la valeur ajoutée demain, quelles vont être les pertes de rendement, comment on peut l'enlever. C'est une expertise qu'on n'avait pas. Et le principe de Peter, il s'applique à nous tous. Et à un moment, si on ne sait pas, on doit se taire et aller chercher la compétence. Et
en fait, alors ne vous taisez pas sur le plateau TV de Radio Immo. Ce serait un petit peu gênant, s'il vous plaît. Attendez encore un petit peu. Alors, vous n'êtes pas tout seul sur ce magnifique marché de l'immobilier haut de gamme. Il y a des acteurs qu'on connaît, Barnes, Féo. Quelle différence, quelle spécificité pour Mercure par rapport à ces autres acteurs?
Alors, par rapport à ces autres acteurs, nous avons... D'abord, nous sommes une vieille maison, parce qu'on a plus de 86 ans, et ce qui est important. On a une couverture nationale, en lieu d'être sur des spots. Et nous sommes, nous, plus sur un immobilier patrimonial, donc autour des belles pierres.
Très bien. Eh bien, on va passer à votre titre. Vous avez choisi une autre chanson. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes allé sur cette musique qui s'appelle Cheveux blancs. Pour ma part, je ne la connaissais pas. Il y a un message derrière?
Alors, c'est un petit clin d'œil que nous nous sommes fait parce que je trouve que ce monde aujourd'hui où on a tendance à regarder dans le rétroviseur en disant qu'hier c'était mieux que demain, je n'y crois pas. Et que cette chanson de la chanteuse brune porte sur les cheveux blancs des guincas, on va dire. Et que il faut vivre avec son temps et regarder l'avenir avec enthousiasme.
On a effectivement on sent que vous êtes très en contact avec des jeunes. On pourrait s'imaginer que sur ce marché de l'immobilier, demeure, manoir, vous rencontrez des personnes qui ont eu le temps de se constituer un patrimoine et donc qui ont peut-être des cheveux blancs. Mais je vous sens très soucieux de la jeunesse dans tout votre propos.
La jeunesse, c'est l'avenir. Nous, on est le présent. Donc on va essayer de les accompagner pour qu'ils puissent construire un monde meilleur, ça c'est le propre. Et puis on a, je pense, la maturité à l'âge que l'on a pour les accompagner et les former pour qu'on ait une belle société demain.
Alors, donc, vous êtes très confiant pour le développement de ce groupe. On a quand même des à-coups extraordinaires, des drames. Un coup, c'est la pandémie, c'est pas fini. Une guerre en Europe. Malgré tout, un optimisme à tout craint pour vous.
Oui, d'abord parce que c'est un cercle sur lequel je ne peux pas agir. Donc, je dois le faire avec. Et je pense que toute société a eu des moments compliqués. Nous, si on revient juste 15 ans en arrière... On voit bien qu'il y en a eu aussi d'autres coups.
Merci Olivier de Chabot, Tramécourt, d'avoir été notre invité. Vous nous faites rêver, même si c'est un marché pur et dur. Et puis on va découvrir avec vous cette chanteuse que je ne connaissais pas pour ma part, Brune. Merci de vous être livrée au magazine de l'Imo sur Radio Imo. Merci de nous avoir écoutés.
Merci Fabienne.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.